Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Eh bien, il nous revient comme les pâquerettes dans les jardins ou le tournesol dans les champs. En tout cas, c'est toujours un plaisir de le lire et de le recevoir parce que bien il nous ravit toujours avec ses personnages, ses histoires. Ce nouveau roman, ce nouveau thriller, eh bien nous fait un peu dresser sur les cheveux sur la tête. Je vous avoue qu'il m'a fait rire, mais il m'a fait aussi pleurer. On y retrouve l'un de nos héros favoris, bien évidemment, qui nous ravit depuis 8 opus, je crois, ce cher Martin Servaz. Alors, le préambule était un petit peu compliqué à faire parce que que dire de ce livre ? Et si je reprends une phrase d'Arthur Conan Doyle qui est au début du livre, c'est « Il faut de l'imagination dans l'horreur », quelque chose comme ça. Voilà, et bien sans plus tarder, j'accueille avec grand plaisir Monsieur Bernard Minier. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nouveau d'avoir accepté mon invitation pour délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier roman, votre dernier thriller, Un œil dans la nuit, aux éditions XO. Alors, on peut le dire aux auditrices, auditeurs, on aurait dû faire cette émission il y a quelques temps, mais voilà, vous avez eu des obligations, donc on refait l'émission aujourd'hui avec grand plaisir, comme ça me permet de vous avoir deux fois de suite, et je suis ravie, voilà.
Tant mieux.
Alors, vous m'aviez dit la dernière fois que on avait discuté, que vous aviez lu plus de 200 livres, 200 films d'horreur
pour visionner. Films, oui.
Voilà. Alors, on retrouve Martin Servaz, c'est votre 11e roman, dont 8 avec Martin Servaz. On y retrouve Bernard espérant Dieu, son autre acolyte, ça y est, j'ai oublié son nom,
Samira
Tchang. On va rencontrer d'autres personnages comme Pierre, je crois qu'il est commissaire à Paris. Il est bien commissaire. Hein,
le il est commandant de police.
Commandant de police,
oui,
voilà.
Voilà. À Paris, oui, au 36.
Au 36. Et le livre commence par un homme qui est en passe de mourir dans un hôpital. Et cette phrase, c'est « Je vais mourir, mon père ». Et de là va débuter l'histoire. Alors, comment est née cette envie de faire un film sur un film ? Vous voyez, un livre.
Quel lapsus.
Oui. Hein, un livre sur les films d'horreur avec des personnages tout aussi glauques, plus glauques les uns que les autres.
Alors, oui, un livre effectivement qui ressemble presque à un film, d'où le lapsus.
Oui.
C'est venu de deux choses. D'abord, j'avais un personnage qui est, depuis un certain temps, qui est Marius Delacroix,
oui,
qui est ce réalisateur de films d'horreur, qui a fait cinq films devenus cultes, surtout auprès des jeunes générations, cinq films qui ont fait scandale aussi, et puis qui du jour au lendemain s'est arrêté de tourner pour se reclure dans les montagnes, dans les Pyrénées. Et j'avais aussi envie de parler du cinéma d'horreur. Moi, je suis fan de cinéma, mais de cinéma plus largement.
Oui.
Quand j'avais 20 ans, j'étais fan de Bergman. J'ai vu presque tous les Bergman. Il en a pourtant tourné plus d'une quarantaine.
Mm-hmm.
J'allais voir Tarkovsky au cinéma, j'allais voir Kubrick, etc. Mais là, on est dans le cinéma d'horreur parce que je trouvais ça, en fait, disons-le, rigolo.
Mm-hmm.
Je trouve que les films d'horreur, on ose tout dans le cinéma d'horreur. Moi, j'en ai regardé effectivement plus de 200
mm-hmm.
Avant d'écrire le roman. Et on voit vraiment tout. Alors, il y a beaucoup de très très mauvais films, hein. Mais il y a aussi des perles au milieu. Et c'est un tel espace de liberté.
Mmh.
C'est outrancier. Ça dépasse toutes les limites. Mmh. On y montre à peu près tout. On y voit à peu près tout. C'est absolument horrible. Mais c'est ça qui en même temps est jubilatoire. C'est qu'il y a une telle liberté qu'on peut plus se permettre beaucoup ailleurs.
Mmh.
Donc c'est ça aussi qui m'intéressait avec cette histoire qui se passe dans le pays. Puis il y a toutes les coulisses aussi du cinéma. Alors,
oui.
Il y a les tournages, il y a ce qui se passe derrière les tournages, entre le réalisateur, les acteurs.
C'est glauque, hein, parfois, c'est sombre, c'est glauque.
Il y a plein d'anecdotes, d'ailleurs, de certaines réelles dans le roman,
qui sont
racontées sur l'exorciste, sur d'autres films.
Oui.
Donc voilà, moi j'écris du thriller, c'est quand même un genre qui joue beaucoup sur la peur, donc on n'est pas tellement loin non plus.
Non, c'est vrai. Et puis, il y a une ambiance dans ce livre, c'est intense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas...
Il n'y a pas de moment de respiration, dirais-je. C'est intense. Je le disais dans le préambule, ça m'a fait rire, mais surtout beaucoup pleurer. On ne dira pas pourquoi, mais voilà, il y a des moments très difficiles. Moi, dans votre livre, j'ai eu l'impression c'était nos limites, c'est-à-dire dans l'explication, dans la description des scènes, des personnages. Là, on a Martin Servaz, bon, que vous avez toujours décrit, vous avez toujours décrit ses états d'âme, ses sentiments. Mais là, on va au profond de l'homme. En plus, il a une petite blessure personnelle parce que Léa, sa chère Léa, est partie en Afrique pour son travail, donc il peut pas s'occuper de son fils comme il veut. Bref, et puis cette affaire qui lui tombe dessus parce que bien il va être appelé dans un hôpital psychiatrique où on va découvrir un homme qui a été tué de manière absolument atroce. Donc il y a pas de limite dans cette histoire. J'ai l'impression que vous êtes lâché, Bernard Minier.
Ah, c'est vrai que je voulais me mettre au niveau des films dont on parle. On parle de cinéma d'horreur, donc il fallait quand même qu'il y ait des scènes aussi qui soient horrifiques, qui correspondent à ce cinéma-là. C'est un peu, sinon ça aurait été étrange de parler de ce cinéma sans pousser le curseur très loin. Donc effectivement, il y a des scènes où ça va très loin. Il y a des choses provocantes, il y a des choses assez gore, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi un propos sur le cinéma de genre et sur la littérature de genre. Oui, il y a des personnages. Morbus de la Croix, c'est quand même un drôle de personnage. C'est un drôle d'oiseau. Oui. C'est quand même quelqu'un qui est misanthrope, qui est excentrique, qui est fou, qui est génial, Enfin voilà. Et puis, mais il y a aussi Kenneth Zorn, le producteur, qui lui non plus n'est pas piqué des hannetons.
Non.
Quelques autres. Donc, oui, j'ai poussé les curseurs assez loin dans ce roman-là parce que vu le sujet dont je parlais, ça. C'était presque inévitable.
Oui. Alors, à cet hôpital, au chevet donc de ce malade il commence à dire « je vais mourir, mon père ». Donc, il remet une enveloppe à ce prêtre et justement qu'il doit remettre à Arthur Zorn, hein, c'est ça.
À Kenneth Zorn, voilà. Le prêtre, oui, il reçoit effectivement l'enveloppe scellée de main d'un mourant, Mathias Lougier, qui se meurt du cancer de l'amiante, et qui était lui-même, qui travaillait dans le cinéma, qui était décorateur dans le cinéma, et en particulier dans le cinéma de ce réalisateur dont je viens de parler, Morbus de la Croix, et il lui remet une enveloppe dont on ne sait pas ce qu'elle contient, ce qu'elle est scellée, mais il lui demande instamment de la remettre à un producteur du cinéma qui s'appelle Kenneth Zorn, et il en va presque... dit-il, du salut de son âme, puisqu'il prononce quand même une phrase extrêmement importante dans ce prologue, qui est l'enfer, j'ai été un de ces démons.
Oui. Si vous savez
ce que cette phrase veut dire.
Si vous saviez tout ce que nous avons fait, dit-il aussi.
Voilà, c'est ça. Donc, dès le départ, on se doute bien que ça ne va pas être une promenade de santé, quoi.
Non. Alors, il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs scènes dans le livre qui, au fond, se regroupent toutes. Vous avez donc cette première scène. Ensuite, le prêtre va aller voir, donc, apporter l'enveloppe à la personne à qui c'est destiné. De son côté, il y a ce mort à l'hôpital psychiatrique dont Martin Servaz va s'emparer de l'enquête. Et puis ensuite, il va aller à Paris. Il y a plusieurs, comme ça, vous savez, ça fait comme un kaléidoscope, finalement, tout se regroupe. Il y a aussi donc cette jeune étudiante en cinéma qui va aller voir Morbus de la Croix dans sa maison au fin fond des montagnes pyrénéennes pour le rencontrer. Donc ça fait comme un kaléidoscope et on se rend compte que finalement tout va se regrouper, mais on rencontre toujours des personnages aussi inquiétants les uns que les autres.
Oui, on a trois intrigues au début. On a donc ce prêtre avec cette enveloppe qu'il doit remettre. On a effectivement Martin Servaz, mon enquêteur fétiche, enquête sur cette mort dans un hôpital plus que suspect puisqu'il a été torturé dans un hôpital psychiatrique. Là encore, comme le mourant qui remet l'enveloppe, la victime était quelqu'un qui avait travaillé dans le cinéma. Donc on comprend tout de suite que ça va être le cœur du sujet. Et puis on a cette étudiante, Judith Talandier, étudiante en cinéma là aussi, qui se rend, qui est sur la route, on la découvre sur la route, elle se rend dans les montagnes, dans les Pyrénées, pour aller rencontrer, elle se rend chez Morbus de la Croix, tout en sachant qu'en même temps, c'est quelqu'un qui refuse, depuis qu'il s'est reclus et qu'il a arrêté de tourner, qui refuse toutes les interviews, qui refuse les visites de journalistes. Et bizarrement, il a accepté de recevoir cette jeune femme qui fait une thèse sur lui.
Alors, il vit avec son épouse, qui est une ancienne actrice, l'épouse de Morbus de la Croix. Et alors, la jeune étudiante, tout au long de parcours, elle va s'arrêter à un moment donné dans une station-service, puis elle va trouver des indications en disant « n'y va pas » ou « fais attention », enfin des mises en garde. Et elle, bien sûr, ça va être très bizarre. On découvrira plus tard pourquoi après. Bien sûr, on peut pas tout dire, comme d'habitude.
Les signes se multiplient, en effet. Qui l'inciterait plutôt à rebrousser chemin.
Oui, Moi, j'aurais fait demi-tour. Hein.
Mais elle est courageuse, voire inconsciente, oui. puisqu'elle poursuit sa route jusqu'au bout. Alors que oui, il y a pas mal de signes qui... C'est un peu le même... C'est le principe, en fait, puisqu'on est toujours dans le cinéma d'horreur et dans le... enfin, on parle, là, on est dans un thriller. Hein, oui. c'est pas un roman horrifique.
Bien
non
sûr,
plus,
bien
sûr. Un œil dans la nuit, c'est un roman policier. Mais c'est un peu le même principe que quand Jonathan Harker, dans le chef-d'œuvre de Bram Stoker, se rend au château du comte Dracula, et que sur la route, tout le monde lui dit, c'est pas une très bonne idée, il faudra bien faire demi-tour.
Alors, je sais qu'il y a, on pourra pas tout dire, mais je sais qu'il y a certaines scènes du livre, ça vous a été inspiré par des images ou quelque chose que vous aviez lu ou regardé, si ma mémoire est bonne.
Je vois pas trop à quelle scène vous faites allusion. C'est-à-dire à quel moment
on peut peut-être pas à un moment donné quand ils sont dans la ferme et les choses se passent pas très bien.
Oui, il y a une scène avec des cochons, oui, effectivement.
Oui, c'est ça.
C'est une scène charcutière en quelque
oui,
sorte.
Oui, c'est ça.
Là aussi, il y a beaucoup de clins d'œil au cinéma d'horreur. Il y en a plein dans le livre. Oui. Il y en a qui sont très bien cachés et je laisse à charge au lecteur
de le découvrir.
Et aux lectrices qui aiment ce genre-là de les découvrir.
C'est pas mon cas.
Mais il y a ce qu'on appelle en anglais des easter eggs, des œufs de Pâques, c'est-à-dire des petites signes qui sont cachées. Par exemple, la chambre d'hôtel où dort Vincent Esperandu à un moment donné, elle apporte, le numéro de la chambre parlera à tous les amateurs du genre, en particulier ceux qui connaissent bien le film Shining. Mais il y a plein, et effectivement, dans le cinéma d'horreur, il y a très souvent, pourquoi j'en sais rien, il y a très souvent soit des têtes de cochons, soit des cochons. C'est un animal qui est très présent dans le cinéma d'horreur, donc effectivement, il y a une scène dans le roman aussi avec... Mais cela dit, il y en a une beaucoup plus rigolote avec des oies aussi.
Oui,
celle-là
c'est vrai.
Plus amusante, elle est moins terrible.
Oui. Alors, il y a aussi.
L'oie est un animal redoutable.
Redoutable et qui pince. Oui, c'est cruel. Enfin, c'est même furieux. C'est dangereux, même.
Ça peur de rien. Ça s'attaque à n'importe quel animal, y compris l'homme parfois.
Oui, c'est vrai.
Rarement, mais ça arrive.
Oui, c'était arrivé à ma grand-mère qui s'était fait pincer par une oie.
D'accord. Donc.
Méfiance.
Mais là, pour le coup, c'est peut-être une des scènes les plus amusantes du livre. Il fallait à un moment donné un peu détendre l'atmosphère et cette scène-là est plutôt sympathique.
Oui. Alors, il quitte à un moment donné Toulouse pour aller enquêter sur Paris parce qu'on lui a donner des indications pour aller dans une boîte de nuit pour retrouver certains personnages. Il va devoir rentrer précipitamment et donc Vincent Esperandieu va se retrouver seul dans Paris, dans le côté les soirées un petit peu aussi gore, glauque du monde de
oui, le monde de la nuit, assez sulfureux, un monde assez particulier.
Oui, et qui ne colle pas vraiment au personnage de Vincent Esperandieu. Voilà, donc il va faire aussi son enquête de son côté, donc ils vont se séparer à un moment donné. Comme d'habitude, bien sûr, il y a toujours en fond les Pyrénées, les montagnes. Mais alors, j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois que Martin Servaz fait une enquête, j'ai toujours l'impression que dans nos Pyrénées, il pleut tout le temps. Vous faites toujours pleuvoir, ou il fait froid, ou il pleut.
Quand Judith Talandier s'y rend, il fait soleil. Hein. Elle en parle d'ailleurs de le contraste entre l'ombre, les forêts qui font penser un peu sombre, qui font penser au conte de fées de son enfance et les prairies ensoleillées. On voit des vaches et des choses, des troupeaux. Mais je ne sais pas si vous avez vécu dans les Pyrénées. Moi, j'y ai vécu.
Je suis de l'Ariège.
Il pleut souvent quand même dans les Pyrénées centrales. Hein. Moi, je me rappelle de très longs hivers avec beaucoup de jours de pluie.
Mais moi maintenant.
Oui, c'est possible. Oui, le climat change. Donc,
Le climat change.
Autant les étés peuvent être chauds, autant les
hivers
sont plus vieux.
C'est vrai.
La première scène avec Judith dans les montagnes, il fait soleil.
Il fait soleil, oui, c'est vrai. Mais à Paris, il tombe des trombes quand ils sont à Paris avec le commandant Pirat.
Il faut croire que j'aime la pluie parce que j'en ai beaucoup dans mes romans.
C'est ça.
Après, j'aime les atmosphères. Moi, je cuisine les plats que j'ai envie de manger. J'écris les livres que j'aime lire, finalement, que j'aime trouver sur les tables des libraires. Et moi, j'aime les romans atmosphériques où il y a une ambiance, un climat, de la brume, de la pluie, choses comme ça.
Mais j'aime bien cette atmosphère aussi. Mais enfin, de toute façon, l'atmosphère aussi décrit aussi un livre. C'est-à-dire que à Paris, il pleut. L'enquête est pas drôle. C'est quand même une enquête un peu particulière avec des gens un peu particuliers. Donc ça plante le décor aussi un petit peu.
Oui, bien sûr, c'est un roman assez sombre. Il y a quand même des scènes, des passages assez durs. Ça, on est bien d'accord. Hein. C'est pas j'en parle un peu légèrement, mais le roman lui-même est,
oui, Il est dur. C'est quand même très sombre et très dur. Alors, il y a toujours cette partie intime de Martin Servaz, de qui on partage un peu la vie, et ça l'humanise, et c'est bien, parce que finalement, au-delà de sa vie de flic, bien que là, c'est un peu compliqué pour lui, Léa est au Congo, hein, si ma mémoire est bonne.
RDC, oui.
Elle est partie depuis un an et demi ou deux ans. Et puis, il est un peu intrigué, parce que quand elle envoie des photos, il y a toujours un homme dessus, sur les photos. Enfin bref, il se pose pas mal de questions. Mais pour autant, on sent qu'il est très attaché à cette femme, mais l'enquête pour lui est très importante. Et je me suis dit, finalement, il se laisse pas dérouter quand même de son boulot. C'est quand même tellement important. Il est toujours très impliqué, Martin Servaz.
Bah, c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'investissement, enquêteur de police judiciaire. Il y a des métiers comme ça, un chirurgien, un médecin, un infirmier, un policier, un pompier... un secouriste, enfin tout ce que vous voulez, c'est quand même des métiers, ces gens-là, on les voit toujours en action, mais en fait ils ont une vie à côté. Donc ils ont les mêmes soucis que tout un chacun, ils ont les mêmes problèmes dans leur foyer, dans leur couple, dans leur famille, et néanmoins il faut aller de l'avant, ce sont des métiers très exigeants, donc il n'y a pas le choix, il faut s'investir, il faut se concentrer. Heureusement qu'un chirurgien ne se laisse pas distraire par tous les à côté de son existence, et c'est pareil pour plein de gens, donc effectivement c'est le cas de Martin Servaz, d'autant que lui c'est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un de qui a une grande droiture finalement. Martin Servaz, c'est pas il a aussi beaucoup de faiblesses, de failles, c'est pas le héros tel que moi lecteur je trouvais à l'adolescence ou dans les romans quand je lisais Bob Moran, il était parfait, il était invincible, il était d'une très grande droiture, d'une très grande intégrité, en même temps il avait toutes les qualités, il avait quasiment aucun défaut. Servaz, c'est pas le cas, aujourd'hui les héros sont beaucoup plus humanisés, beaucoup plus vrais, beaucoup plus authentiques, mais en même temps c'est quand même quelqu'un qui a cette droiture-là,
sur qui on peut s'appuyer.
Qui a ce code moral-là, et ça j'y tenais.
Oui. Et sur qui on peut s'appuyer aussi. Pour moi, c'est un homme de confiance.
Il est fiable.
Il est humain et fiable. Il a des sentiments. Il a horreur, on va dire, de la connerie humaine. Les gens le gonflent royalement, si je peux m'exprimer ainsi. Il se pose quand même des questions. Oh là là, mais je vais encore faire combien de temps ce métier et les gens. Et puis j'ai l'impression qu'il a un regard aussi sur le monde et sur les gens un peu désabusés aussi, malgré tout.
Oui, parce qu'en fait, on allait effectivement, comme vous l'avez dit, souligné au huitième tome avec Martin Servaz. Plus de 10 ans sont passés, donc le lecteur vieillit, l'auteur vieillit, le personnage vieillit, et puis il a affronté tellement de choses que ce métier-là, c'est un peu comme vouloir vider l'océan avec une cuillère. On n'en finit jamais. Et plus on sort d'ordures et de saloperies, plus il en arrive, plus il en tombe. Donc c'est sans arrêt, quoi. C'est une avalanche permanente de vices, de crimes. Il est confronté à la lie de l'humanité.
Elle est pas belle à voir. Alors, sans parler bien sûr des moments importants du livre, et Dieu sait s'il y en a, il y a quand même une évolution dans ce dernier opus de Martin Servaz, Un œil dans la nuit, parce qu'il faut changer, il faut évoluer, il faut aller vers d'autres horizons, se renouveler aussi.
Bien sûr, moi je veux pas raconter toujours la même histoire, ça m'intéresse pas, je pense que ça intéresse pas mes lecteurs non plus. Je pense sans me vanter que depuis Glacé jusqu'à aujourd'hui, mes romans sont très différents les uns des autres, tout en restant fidèle à mon univers, aux codes qui sont les miens, et avec souvent les mêmes des personnages qui reviennent, mais néanmoins je pense que chaque roman est différent, et j'ai pas envie de devenir une caricature de moi-même. C'est aussi pour ça que l'an dernier j'ai lancé une nouvelle héroïne dans le grand bain qui est Lucia Guerrero, enquêtrice espagnole.
Très bien.
Me renouveler, moi j'ai envie de m'amuser quand j'écris, donc si c'est pour écrire à chaque fois le même livre, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Et effectivement, Un œil dans la nuit est très différent de La chasse, de La vallée.
La vallée, Les deux sœurs, Le cercle glacé.
Glacé, etc. Je pense que ce sont des romans très différents les uns des autres. Et en même temps, on y retrouve ma patte, on y retrouve mon style, on y retrouve mon univers. Et je crois que c'est ça que le lecteur apprécie, c'est que je lui propose des histoires à chaque fois nouvelles, et en même temps, il retrouve un univers qu'il aime.
Si vous deviez faire, alors c'est peut-être compliqué pour vous, pour nous aussi, en tant que lectrice, je ne veux pas m'engager pour les autres auditrices, auditeurs, mais s'il y a, dans tous ces 11 livres, s'il y en a un que vous deviez préférer, que est-ce qu'il y en a un que auquel vous êtes le plus attaché, avec pour lequel vous avez plus de plaisir à parler?
Là, c'est une question difficile.
Eh ouais, je sais.
Je pense que il y a Glacé, évidemment, parce que c'était le premier.
Ouais.
C'est le début de l'aventure et j'ai toujours de la tendresse pour ce livre, même si je ne l'ai pas relu. Mais pour l'univers, cette vallée dans les Pyrénées et tout, l'hiver, je m'étais énormément amusé à l'écrire. Mais il y en a plein. Une putain d'histoire, c'est aussi une formidable aventure. On est parti à Seattle, on a exploré ces îles.
Il y a M au bout de l'enfer aussi. Vous aviez fait
le World Abyme, qui se passe à Hong Kong.
Un séjour à Hong Kong.
C'est une aventure fabuleuse.
Ouais.
Hong Kong, c'est une ville incroyable.
Ouais,
moi, j'étais fasciné par cette ville d'or. Je détesterais y vivre, mais parce que c'est quand même à la fois l'enfer et le paradis, Hong Kong. Mais c'est une ville absolument extraordinaire pour y planter le décor d'un roman. Il y en a plein. C'est difficile. Moi, j'aime beaucoup celui-ci, Un œil dans la nuit.
Je me suis énormément amusé à
regarder des films d'horreur tous les soirs pendant 6 mois, quasiment. Moi, je ne me posais pas la question de savoir ce que j'allais regarder à la télé le soir. Je le savais déjà. Et ça a été passionnant parce que j'ai découvert des perles. J'ai découvert les films de Ari Aster, de Jordan Peele, de
plein de gens. Je suis vraiment...
Et puis des anecdotes de tournage incroyables. Donc je me rappelle, certaines sont dans le roman et certaines sont authentiques. Et puis c'est pas le personnage de Morbus de la Croix, ça m'a permis de dire plein de choses aussi sur la société, sur le politiquement correct, sur la censure ou l'autocensure. Enfin, parce que c'est
toujours
quelqu'un qui ne censure pas du tout.
Mais toujours dans vos romans, Bernard Minier, parce qu'au travers de La Chasse, de La Vallée, il y a toujours la dénonciation de quelque chose qui vous exaspère, qui vous choque, qui vous énerve. Il y a toujours
avec des nuances, toutefois, parce que je ne suis pas pour donner des leçons.
Bien sûr,
donneurs de leçons quand on a un genre à la télé.
Oui.
C'est pas une dénonciation.
Non,
mais. C'est pas de la colère, c'est juste une peinture de la société dans laquelle on vit à travers le point de vue de certains personnages. Et parfois, ce point de vue rejoint le mien, comme souvent dans le cas de Servaz.
Oui.
Et d'autres fois, non. Par exemple, dans La Chasse, il y a le général Thibaut Donadieu de Ribes qui veut, avec quelques acolytes, veut le remettre de l'ordre dans le pays, parce qu'ils estiment que la justice n'est pas rendue, que les coupables sont pas châtiés, sont pas punis. Donc il a un discours comme ça assez, mais ça veut pas dire que c'est mon discours, parce qu'il y a des lecteurs qui ont pensé que le discours du général de c'était le mien. Non, c'est pas le mien.
C'est ce que vous lui dites.
C'est ce que je lui fais dire par rapport à qui dit à Servaz. Moi, mon point de vue, c'est plutôt celui de Servaz. C'est quelqu'un qui doute, quelqu'un qui se pose des questions.
Bien sûr. Mais je me souviens aussi, quand on avait parlé de La Chasse, c'était presque, entre guillemets, un roman d'anticipation. C'est-à-dire que il y avait eu le confinement c'est pas La Chasse, c'est La Vallée.
La Vallée,
les gens s'étaient retrouvés bloqués. Je me souviens, vous m'aviez dit, ça me fait un peu peur de me rendre compte que j'ai raconté une histoire qui finalement nous est arrivée. Il y avait une forme d'anticipation comme ça, de prémonition.
C'est pas la première fois ni la dernière, puisque l'année d'après avec la chasse, j'ai imaginé un général à la retraite et un groupe de personnes qui voulaient, comme je l'ai dit, rendre la justice parce qu'ils estimaient qu'elle était mal rendue. Et 3 semaines après que le roman a été publié, on a eu cette tribune de généraux à la retraite qui avait exactement le même discours que celui de mon roman.
Alors, sans faire de la philosophie et de la psychologie à 3 balles, passez-moi l'expression, au travers de Un œil dans la nuit aussi, bon, bien sûr, c'est les films d'horreur. Est-ce que aussi, comme ça, en sous-titre, ou peut-être un petit peu pour l'évoquer sournoisement et à nous de déchiffrer, c'est pas une façon aussi de décrire un peu l'horreur de ce monde, la difficulté, le côté noir de ce monde, d'une façon générale?
Je sais pas, parce que c'est quand même quelque chose que je fais dans tous mes romans. C'est des thrillers, c'est des enquêtes policières. En général, Servaz, il se confronte, comme je disais, à la lie de l'humanité. C'est pas des films boubou qu'il est pas en train de se... C'est pas le côté rose de la vie qu'on voit, c'est le côté sombre.
Ouais.
Mais je sais pas si celui-là est plus sombre que les autres, j'en sais rien. C'est aussi effectivement le sujet qui commande... C'est plutôt qu'avec... Morbus de la Croix parle du cinéma d'horreur et donc du cinéma de genre et de son rapport à la critique et au cinéma en général. C'était une façon de tendre un miroir au thriller, qui est le genre dans lequel je sévis, et,
ouais.
et à son rapport, lui aussi, à la critique et à la littérature en général. C'est mmh. plutôt ça, c'était plutôt mmh. ça l'idée.
Ouais. Alors, Morbus de la Croix, on apprend à le connaître, mais en fait, je me suis rendu compte à la fin du livre finalement qu'on savait tout et rien de lui, parce que moi j'ai trouvé que c'était un personnage à plusieurs facettes. Il peut être brutal dans son verbiage, dans son regard, dans son expression. Parfois, on peut espérer qu'il soit tendre, et puis finalement, on se dit, c'est un personnage qui est noir. Finalement, c'est un personnage qui a un peu de morale, mais finalement, il en a pas. Morbus de la Croix, ça peut être tout le monde et n'importe qui. C'est un kaléidoscope pour moi, Morbus de la Croix.
Ben oui, effectivement, il y a plusieurs facettes, mais ouais. comme tout le monde, en fait.
Comme tout le monde,
oui. L'idée, justement, c'est de ne pas avoir des personnages monolithiques,
ouais.
De ne pas tomber dans le machiavélisme où tout est noir ou blanc.
Mm-hmm.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gris.
C'est pas manichéen, oui. Mm-hmm.
C'est les 50 nuances de gris, sans faire penser à un très mauvais roman. mais c'est ce qui mm-hmm. c'est la complexité de la vie, au fond. Mm-hmm. C'est Milan Kundera qui le disait, l'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. C'est-à-dire que on est dans un monde de plus en plus complexe. Le cerveau est toujours en train de chercher des mécanismes pour le simplifier. Et le roman fait exactement le contraire. Le roman dit au lecteur, les choses sont compliquées. Les choses sont pas simples et les personnes non plus. Et un personnage entièrement mauvais ou entièrement bon, ça n'a aucun intérêt.
Bien
déjà,
sûr.
Ça n'existe pas.
Mmh.
Et puis, il n'y en a aucun à part. Peut-être quelques psychopathes, effectivement, et tueurs en série. Mais ce qui est intéressant, ce sont les failles, ce sont les nuances. Et même Pierre Salopard, dans mes romans, aura toujours, à un moment donné, quelque chose qui le rend humain. Et c'est ça qui est encore plus terrifiant.
Oui. Est-ce que l'actualité, enfin, je connais un peu la réponse parce que je commence un petit peu à vous connaître au bout de plus de 10 ans maintenant. Est-ce que l'activité vous anime et ça vous permet aussi parfois, dans vos romans, dans vos livres, au travers de vos personnages, de Martin Servat ou d'autres, d'expulser une forme de colère, de rage, d'incompréhension, de ras-le-bol aussi parfois par rapport à l'actualité qui est parose et ces jours derniers le démontrent encore. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait avancer aussi, Bernard Minier?
En tout cas, c'est pas la colère, ça non.
Ouais.
Je pense pas que d'ailleurs, même Servaz n'est pas quelqu'un de.
Non.
Il est des fois en colère, mais c'est ponctuellement, c'est
oui,
dans une situation précise. Mais
oui,
des fois, il est. Bah, oui, effectivement, dans ce livre, à partir des deux tiers du livre, il est dans une forme de rage.
Oui.
Mais bon, on ne peut pas en dire plus, on comprend très bien pourquoi.
Oui.
C'est parce quelque chose qui le met dans un état pas possible,
bien
mais
sûr.
Là, bon, c'est tout à fait légitime.
On l'aurait tous été. Hein.
Oui, voilà, exactement.
Ouais.
Mais sinon, moi, je ne suis pas dans la colère, j'observe le monde avec perplexité. Je suis comme Servaz, je suis quelqu'un qui est né au siècle précédent, qui a connu pendant les 30 premières années de sa vie un monde sans Internet, sans téléphone portable, sans ordinateur domestique.
Et on n'était pas plus malheureux. Hein.
Et donc, il regarde ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de recul, finalement. Et c'est ce recul-là, surtout, qui est important. Je pense que c'est plutôt, si je devais utiliser un mot un peu pompeux, je dirais, c'est pas de la colère, c'est de la lucidité.
Oui, peut-être, oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Parfois, ça peut être une colère raisonnée, vous savez, une colère constructive.
Oui, la colère, dans les romans, ça n'a pas grand intérêt.
Ça n'a pas d'intérêt,
en colère, à ce moment-là, j'écris un pamphlet, j'écris une satire où j'écris aux journaux ou aux hommes politiques. Pas dans un roman. Le
bien
roman,
sûr.
C'est tout autre chose.
Est-ce que, bien sûr, je suppose que dans votre tiroir ou sous votre bureau, il y a déjà le prochain roman, on retrouvera Lucia ou Martin Servaz?
Alors, le prochain, ça sera Lucia. On retourne en Espagne, donc.
Ouais.
Effectivement, je suis déjà en train de le préparer. Je fais des allers-retours entre la France et l'Espagne pour faire les repérages. Voilà, ça va se passer à Madrid, en Galice, dans d'autres endroits que le premier, évidemment. Voilà, et je m'amuse bien avec ce personnage aussi parce que oui, c'est un autre
très intéressant
sur le monde que celui de Servaz.
Ouais.
Elle est plus jeune, c'est une autre génération, elle est espagnole, c'est une femme.
Ça pourrait être la fille de Servaz.
Ça pourrait être la fille de Servaz, oui, s'il avait une fille en Espagne, mais pourquoi pas.
Ouais. Mais je me suis dit, alors vous allez me dire, oh là, les casse-pieds, elles se posent des tas de questions, mais ils pourraient un jour se rencontrer, Lucia et Martin Servaz? Pour une enquête.
Je vous rassure, vous n'êtes pas la première. Mais
j'imagine.
J'en sais rien, en fait, parce que je prévois pas si loin.
Oui,
je prévois juste le roman suivant et c'est tout.
J'imagine.
Donc, je sais pas du tout. Je sais un peu ce qui va se passer dans le prochain Servaz.
Ah, bah,
et parce que forcément, On va rien dire, mais la dernière phrase du livre, c'est quand même une énorme question.
Oui,
hein,
oui.
Et donc il faut attendre le prochain pour avoir la réponse.
Énorme question.
Mais donc ça, je sais un
qui
peu.
Qui est derrière la porte?
Voilà, moi j'ai la réponse, je l'ai. Hein. Moi, la réponse, je la connais.
Je peux vous torturer pour le savoir.
Oui, oui, mais moi je sais, mais je vous le dirai pas.
Bah non, j'imagine.
Mais voilà, mais je c'est un livre après l'autre, donc peut-être un jour.
Oui, puis on a laissé.
On se rencontrait, mais quand, j'en sais rien.
Oui, puis on a laissé Lucia aussi dans sa voiture, aussi avec perplexité aussi. Hein.
Exactement, oui. Ah ouais. Oui, tout à fait.
Écoutez, ça a été un grand bonheur de nouveau de vous accueillir pour votre dernier roman, Un œil dans la nuit, aux éditions IXO. On se retrouve dans un an. Vous revenez avec les petites pâquerettes, comme je disais, dans les jardins,
absolument,
les tournesols dans les champs.
Au printemps. L'hiver terminé,
vous réapparaissez.
Je vous retrouve avec un roman,
Mais je vous remercie infiniment de nouveau d'avoir accepté de nouveau mon invitation. Un œil dans la nuit aux éditions IXO. À très bientôt. Passez un bel été, Bernard Minier.
Également, merci.
Et rendez-vous dans un an.
Voilà, quant à nous, je vous souhaite une belle lecture. Surtout, ne lisez pas le livre dans le noir complet, à la bougie. Prenez un petit verre d'eau, faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est vraiment un très bon thriller. C'est du grand Bernard Minier. À très bientôt, en tout cas, et bon courage pour la lecture et bonne lecture. À bientôt.